a song that comes from Tanzania.
Galère, c'est Livres et Amis du 4 avril avec Alex et Odile. Galère, galère. Et Christine est en examen et elle, nous la regrettons et nous lui souhaitons bonne chance. Rapidement, puisque nous avons perdu quelques minutes pour laisser à l'émission de l'EPRA le temps de se terminer, une émission intéressante, ça se termine par un, un souhait que le projet de garage se fasse. On n'est pas tellement pour la civilisation de la bagnole, mais enfin n'empêche qu'il faut une période transitoire, donc souhaitons aussi bonne chance à ce jeune homme. Je vais commencer par vous lire un texte qui a été lu au Tourski. Il est d'Ahmed Gazaoui, qui est palestinien, qui habite Gaza et qui écrit donc pour participer à sa façon au grand meeting qui a eu lieu au Tourski il y a 12 jours. C'est un universitaire et il est responsable du département français et coordinateur du Centre de la paix de Gaza. Voici ce qui a été lu. C'est si beau que je vous le redis. Je suis palestinien, je vis sous occupation. Je vis l'injustice, je vis l'oppression, seul face à la barbarie, seul face au silence complice du monde, un monde absent, indifférent, un monde défaillant. Je suis enfermé suite à un blocus inhumain. Pour moi, rien n'est facile. J'affronte depuis des décennies l'atroce rigueur d'une occupation qui ne désire pas la paix, qui ne veut pas la paix. Face à cette situation insoutenable, face à cette cruauté inhumaine, j'ai le choix. Soit je quitte mon pays, je fuis, soit je reste, je résiste. Mais comme la si belle lumière de mon pays et le soleil de mon cœur, je choisis de résister. Mais comme tous mes ancêtres qui m'ont appris la fidélité à notre terre et aux valeurs humaines, je décide de résister. Mais comme les principes de paix ancrés dans mon cœur, j'ancre la résistance. Sur ma terre, je garde la tête haute. Sur ma terre, je résiste ici. Ici, je reste. Ici, j'existe. On apprend aux nouvelles que Gaza, le Hamas et le Fatah se sont réconciliés avec ce que l'on peut bien dire que les Israéliens ne veulent pas la paix, que vont devenir ces accords. Mais je tenais à vous lire ce beau texte qui montre que le peuple palestinien continue de résister. Informations diverses, une publication de Kofi Kouaïlé dont nous avons pu admirer au Gyptis la magnifique mise en scène et sur son texte pour qui s'appelle Jazz, et il vient de publier Monsieur qui, Rhapsodie parisienne à un sourire pour caresser le temps, un sous-titre étrange qui donne envie de lire ce texte touffu et d'une composition extraordinairement nouvelle. C'est publié chez Continent Noir, dans la série Continent Noir chez Gallimard. C'est 145 pages et 16 €. Nous saluons aussi la mort d'Ernesto Sabato, l'auteur de la fameuse trilogie de Buenos Aires. Ernesto Sabato, exilé de son pays, de retour et chargé par ce militant communiste dans sa jeunesse, s'est toujours vécu comme un homme engagé et il a été chargé à son retour au pays par le gouvernement de Raúl Alfonsi, la commission d'enquête sur les personnes disparues en Argentine. Donc nous saluons ce grand écrivain argentin, auteur de la trilogie de Buenos Aires, une autorité morale dans l'Argentine d'aujourd'hui. Enfin, le livre que je vous présenterai le mois prochain sur Franz Fanon, c'est de Pierre Bouvier. Pierre Bouvier, professeur émérite à l'université Paris 10 Nanterre, et il écrit un livre aux belles lettres, Aimé Césaire, Franz Fanon, portrait de décolonisé. Il pose donc hein, ces deux personnages, et on voit sur la page de garde que la photo de Frantz Fanon est plus importante que celle d'Aimé Césaire, qui est coupée en deux, et il dénonce l'injustice, hein, qui a entouré la disparition de Frantz Fanon, alors que Césaire a eu des funérailles tout à fait officielles, y compris avec des gens qui ne professaient pas du tout ses idées. Et puisque je parle de Frantz Fanon, eh bien, je vais, ça aurait dû être fait mercredi dernier, mais j'étais en vacances, vous donner une sorte de compte rendu du livre, un compte rendu modeste quand même, car c'est un livre très lourd de sens, très touffu, plein de détails. Alice Cherki, qui a connu Frantz Fanon et qui écrit « Frantz Fanon, portrait au seuil », cela date de septembre 2000. Et elle a écrit d'autres œuvres, puisqu'elle est psychanalyste, « Le retour à Lacan » chez Fayard en 1981 et « Les Juifs d'Algérie », édition de Suiba, en 1987. Comment a-t-elle rencontré Fanon? Eh bien, elle l'a rencontré en 55. Il faisait une conférence pour l'AJAAS, l'Association des Jeunes Algériens, pour la jeunesse algérienne pour l'action sociale, et elle a été étonnée de l'autorité de sa parole. Et elle lui a dit bien après qu'elle s'était pas aperçue ce jour-là qu'il était noir. Et lui, quelquefois très susceptible, eh bien, il a éclaté et de rire. Et s'il l'a fait venir auprès de lui à l'hôpital de Blida, c'est que communiste, elle subissait une discrimination prenant la forme d'actes violents, crevaison de pneus, quand elle était à Paris. Voilà donc comment Alice Cherki, qui n'a pas cessé de correspondre et de suivre Frantz Fanon dans ses différentes fonctions, eh bien, va parler de lui d'une façon très personnelle. Vous avez déjà entendu l'émission, la grande émission de Radio Galère qui suivait la carrière de Frantz Fanon, commençant par les Antilles, ensuite son action dans la libération de la France, le passage à Lyon, ce qu'il a appris à l'hôpital de Saint-Alban en Corrèze, et puis ensuite Blida, et puis Tunis, et puis l'Afrique. Et là, c'est quelque chose de plus personnel, hein, parce que l'analyse de Alice Cherki sous-tend certaines questions qu'elle ne pose pas vraiment, par exemple, différent de pensée et la coupure avec Aimé Césaire, le fait justement, certains le lui ont reproché, hein, en disant pourquoi il s'est pas occupé des Antilles, pourquoi il est allé s'occuper de l'Algérie, et enfin ce qui concerne la force et le caractère impeccable de son engagement pour la lutte du peuple algérien. Donc Fanon, je reprends le début du livre, hein. Le premier chapitre s'intitule Fanon avant Blida, hein. On voit quels sont les grands moments, hein, de cette vie. Il est né en 1925, il a eu une enfance en Martinique, qui était une enfance heureuse. Il était le cinquième de 8 enfants. Son père était inspecteur des douanes et sa mère, qui était mulâtresse, elle avait une grand-mère allemande, c'est pour ça qu'il s'est appelé Franz, tenait une boutique. Il raconte qu'à l'école, on l'emmenait fêter toutes les années Schœlcher. Et alors Schœlcher qui avait aboli l'esclavage. Et tout jeune, il a dit, mais il a aboli l'esclavage, en fait l'abolition, mais l'esclavage, qu'est-ce que c'était? Mais à ce moment-là, il s'est pas rendu compte à quel point cette question de l'esclavage allait occuper tout son inconscient, et puis il y a aussi un inconscient collectif qui est celui du peuple martiniquais. Il rencontre Césaire. il n'a pas encore été son élève, il a été son élève au retour de la guerre en 47, mais par ses frères aînés, par les amis de son frère aîné, il a entendu parler de lui et il dit que cette rencontre a été pour lui une nouvelle naissance. Et c'est alors que, tout jeune, il avait 17 ans, il s'est engagé dans une flottille pour aller rejoindre ceux qui, dans l'île de la Barbade, faisaient de la résistance. On les appelait les dissidents. Ensuite, après le fait que la Martinique soit tombée, le gouverneur avait pris parti pour Pétain, eh bien, et quand les troupes de la France libre se sont constituées, il est allé s'engager, alors d'une façon beaucoup plus officielle, dans le bataillon 5. Et alors là, il a fait sa première expérience du racisme. Les Antillais sont considérés, eux, comme des Européens, bien que de peau plus ou moins sombre, et d'ailleurs entre eux ça introduisait des discriminations racistes, mais surtout ils étaient considérés comme des Européens en face des tirailleurs sénégalais qui eux étaient considérés comme des Noirs, qui étaient moins bien traités, qui avaient des quartiers à part. Et Frantz Fanon devait, comme ses collègues antillais, porter une chéchia pour montrer qu'il n'était pas un Noir, qu'il était un Européen. Alors il ne voulait pas évidemment la porter, et ça lui a valu, avec son ami Manville, le fait que, de retour le soir dans les quartiers européens, entre guillemets, eh bien, on leur refusait l'entrée, ou bien ils se faisaient tabasser parce qu'ils avaient perdu leur couvre-chef. Autre découverte aussi qu'il fait, quand il est envoyé après, il a débarqué à Saint-Tropez, mais il se trouve ensuite envoyé dans la poche de Colmar, et il écrit à ses parents une lettre désespérée en disant « Je me suis trompé, je vais mourir », à ce moment-là il croit qu'il va mourir au combat, « si je meurs, ne dites jamais que c'est pour une noble cause ». Et ils étaient un trio, Mozol, Manville, Marcel Manville, qui est devenu avocat, et Fanon. Et là, si je rappelle cela, c'est pour dire que quand il arrive à Blida, il a une grande maturité physique, et ses internes qui ont 4 ans de plus que lui, eh bien, il le croyait plus âgé. Et lui qui s'est, je reviens sur sa déception et sur cette maturation de sa pensée, lui il s'était battu contre le nazisme qui promenait la supériorité ethnique, et il se trouve affronté au racisme. Au retour de la guerre, il passe son bac, et c'est là qu'il suit les cours d'Aimé Césaire. En 45, il part en France, il veut connaître autre chose, il s'installe à Lyon, et il est intéressant de voir, chaque fois que je peux, je ferai le rapport avec son œuvre écrite « Peau noire et masque blanc », il dit « Les Antillais, quand ils arrivent en France, ils veulent s'européaniser. Mais la première chose qu'ils font, c'est de rejoindre la communauté antillaise. Et lui, il ne vit pas dans cette chaude communauté antillaise. Il choisit d'affronter l'univers des Blancs. » Et c'est alors que aussi il lit beaucoup, beaucoup de choses. Il lit de tout, à commencer par Lacan. Mais dit-il, il lit aussi Marx. Mais dit-il, je n'ai jamais lu le Capital. Et des discussions qu'il avait avec les autres étudiants, il était étudiant en médecine, mais aussi en sociologie, en littérature et en philosophie, il s'intéressait à tout, et il avait le besoin de montrer sa compétence en obtenant un diplôme, ce qui peut paraître étonnant, hein, de la part de quelqu'un qui se destine à la médecine. Mais au départ, d'ailleurs, son ami Manville lui conseillait plutôt de devenir dentiste. Il n'a pas voulu, il a préféré être médecin et puis ensuite psychiatre. Et on le comprend quand on lit « Peau noire, masque blanc ». J'ai dit que je ferai le lien autant que possible avec l'œuvre de Frantz Fanon. Je rappelle ses quatre grandes œuvres, « Peau noire, masque blanc », L'an 5 de la révolution algérienne pour l'Afrique est constitué d'articles qu'il a écrits en collaboration d'ailleurs avec d'autres membres du FLN puisqu'il était chargé à Tunis de la rédaction et de la publication de El Moudjahid. Et enfin sa dernière œuvre écrite la dernière année avant sa mort, l'année 61, qui est Les damnés de la terre, et c'est l'œuvre qu'il a fait connaître davantage. Et il s'inscrit donc dans des cours de philosophie et de lettres, et il fait ses études à Grange-Blanche chez le professeur De Chaume, et c'est cela, c'est ce stage chez ce professeur qui lui inspireront le syndrome nord-africain publié dans la revue Esprit et qui est publié aussi dans pour l'Afrique, parce que pour lui l'Algérie et l'Afrique c'est tout le même continent qui doit se libérer. Et son premier poste est un j'oublie de dire que Peau noire, masque blanc, c'était sa thèse de psychiatrie, mais le professeur De Chaume n'a pas voulu, il a dû à toute vitesse rédiger une thèse sur un sujet que j'ai oublié, qui est tout à fait technique, hein, et pour il l'a rédigé en 2 mois pour pouvoir être reconnu médecin. Son premier poste, c'est à Dole, et c'est une mauvaise expérience, et c'est d'ailleurs à son retour qu'il présente cette première thèse qui est refusée. On a peu de témoignages sur la vie qu'il mène comme étudiant à Lyon, et il a évoqué dans une lettre quand il était mourant à Josie la rencontre qu'il avait faite à cette jeune étudiante lyonnaise, Josie, sur les marches du théâtre. On sait qu'il a participé à des manifestations anticolonialistes et il fréquentait certes des étudiants de gauche. Mais c'est après cette période-là, disons aussi que il a eu à ce moment-là une fille, Mireille, qui porte son nom, Mireille Fanon Mendès France, et qui est née d'une liaison en France. Fanon a toujours très discret sur lui-même, n'en a pas parlé, mais il l'a reconnu et il a payé une pension alimentaire. Je reviens à la psychiatrie et j'en viens à Saint-Alban, où il rencontre Tosquel, qui est le promoteur en France de la psychothérapie institutionnelle. De quoi s'agit-il ? C'est d'abord un esprit, pas museler la folie, hein, comme on le faisait avec la camisole de force ou avec la camisole des médicaments, hein, qu'on voit encore maintenant, mais d'interroger la folie et de vivre ensemble. Et il a aussi été très frappé, c'est un aspect de la psychothérapie institutionnelle, par la grève des malades travailleurs à l'hôpital de Pontorson. On faisait travailler les malades et comme ils s'estimaient mal rétribués et ayant de mauvaises conditions de travail, il a fait la grève et c'est ce qui l'a amené à dire « il faut d'abord soigner l'asile ». Et c'est donc à ce moment-là qu'il écrit « Peau noire, masque blanc » et il a eu une première entrevue très orageuse avec Francis Janson. J'en ai écouté le souvenir dans la bouche de Francis Janson dans le film que j'ai vu vendredi dernier là avec l'avenue de Serge Guichard qui venait du comité international Frantz Fanon, il venait de Paris et avec un très beau film, j'ai oublié les références mais je demanderai à Aziz pour me le procurer, et Francis Janson a lu le manuscrit, a tout de suite convoqué Fanon en lui disant c'est assez remarquable. Et Fanon, quand il arrive, il dit ah oui, c'est remarquable hein, pour un noir. Ouh, alors Francis Janson l'a mal pris, il dit mais dites, si vous le prenez comme ça, vous n'avez plus qu'à prendre aussi la porte. Puis enfin, en définitive, bien qu'ils aient eu aussi des différents d'ordre politique, eh bien Francis Janson a tenu bon pour publier Peau noire, masque blanc, et c'est même lui qui a trouvé le titre, parce que le titre choisi par Fanon, qui était psychothérapie, psychologie des profondeurs du noir entier, quelque chose comme ça, c'était pas très parlant, et peau noire, masque blanc, ça parlait beaucoup plus. Voilà donc comment se présente Fanon avant Blida. Fanon, c'est celui de peau noire, masque blanc, celui qui ferraille avec Manoni, qui a publié un essai sur les Malgaches. Manoni, sa femme est toujours là, il est mort, et Fanon est ferraille avec lui. Pour quelle raison? Manoni avait développé dans sa thèse l'idée qu'il y avait des peuples qui étaient plus enclins à être colonisés que d'autres, parce que dans leur inconscient, ils aimaient bien être soumis. Il y avait un certain attrait de la soumission, et cela évidemment excite la colère de Frantz Fanon. Depuis, il faut le dire, Manoni est revenu en arrière. Il n'a pas que développé que cette affaire-là, il a développé la notion de complexe de Prospero, par exemple, c'est le complexe de celui qui est colonisateur, et il est revenu en arrière, mais après la mort de Frantz Fanon, en disant ces hypothèses sur l'inconscient des Malgaches devaient être revues. Voilà, j'anticipe de plusieurs années, hein, puisque là, Manoni est mort en 84, et c'est dans les années 80 qu'il a fait cette mise au point. Et j'en viens maintenant à la période algérienne, et peut-être faut-il dire un mot, hein, comme le fait habilement Alice Cherki, de l'Algérois en 1953, au moment où Frantz Fanon y arrive. Et c'est en 50 qu'il a publié, je donne quelques dates pour avoir des choses précises, qu'il a publié Peau noire, masque blanc. Et il se plaisait à dire, les ressortissants français et européens d'Algérie, que l'Algérie était plus anciennement française que Nice ou la Savoie. Or, c'est pas du tout le cas. Dans l'Assemblée qui date de 47, la moitié était élue par les Européens et l'autre moitié par les Autochtones. Mais il y avait un grand déséquilibre entre les deux moitiés, parce qu'un vote français vaut 8 votes musulmans. Alors avoir le culot de dire que l'Algérie est plus française que le Nice ou la Savoie, il faut le faire. En plus, les élections sont truquées par l'administration française. Et les candidats, par exemple en 48, les candidats nationalistes étaient largement en tête au premier tour et ils ne furent pas élus au second tour. Bon, vous imaginez ce qui a vu se passer avec les urnes, et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression « élection à l'algérienne ». Et parlons aussi de la ville d'Alger. La ville d'Alger est divisée en quartiers. Il n'y a pas de discrimination et de racisme qui soit affiché entre les quartiers, mais c'est tacite. Chaque population a son quartier et n'en sort pas. Pour les Arabes, c'est la Kashba, et pour les migrants qui viennent de l'intérieur, c'est la petite Kashba, et il y a aussi d'énormes bidonvilles. Et il appelle cela la paroi de verre de la partition. Et ces bidonvilles c'est là que va se passer quelque chose. Il y a une action sanitaire et sociale. Je vous ai donné le sens de l'AJAAS, des jeunes. Et que ce soit les jeunes arabes ou les jeunes français, eh bien, pour faire cette action dans les bidonvilles, ils transgressent cette muraille de verre de la partition. Et c'est de ces associations que viendront les premiers contacts avec Fanon. Fanon commence par faire connaissance de la société européenne et aussi la société juive, et il fait connaissance avec le racisme ordinaire. Il fait connaissance aussi de André Mandouze, de Témoignages chrétiens, et André Mandouze dit son premier contact avec l'aumônier des étudiants catholiques, les Français. Il dit que les Français de là-bas se veulent plus français que les Français de France. Et puis alors surtout, l'aumônier dit, vous savez, avec les Arabes, rien ne vaut le fusil. Hein. C'est pas la peine d'essayer de les rendre intelligents. Et ceux qui disent qu'ils se veulent plus français que France, ils oublient que les Français à l'époque en Algérie, ils étaient majoritairement musulmans. Au cercle franco-musulman, il y a des notables, et Frantz Fanon ne va pas le fréquenter longtemps. Et au début de ce il y a un compagnonnage avec le Parti communiste algérien, les syndicats, le journal Alger Républicain et la JAAS dont j'ai déjà parlé, les amitiés algériennes, titre d'une revue, Conscience maghrébine, qui l'attire d'ailleurs plus que le PCA. Et Fanon, c'est à noter, n'a pas rencontré à ce moment-là ni Mohamed Dib, ni Kateb Yassine, ni Feraoun, qui écrit en 1954 Les Jours de Kabylie. Voilà donc le portrait de l'Algérois et d'Alger quand Fanon est nommé à Bidla, à la PEB, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique de Bida. On l'appelle aussi Joinville. On disait, il est bon pour Joinville, pour dire d'un homme qu'il était fou. Et à l'époque, à l'école d'Alger, il y a une doctrine, l'école psychiatrique, qui prévaut, qui est unique. Hein. C'est la doctrine du primitivisme représentée par le professeur Porot. Et Fanon est horrifié par ce qu'il voit à sa première visite du centre. Les gens sont enfermés, ils ont des camisoles de force, et il veut montrer que la folie, elle est humaine. Il inscrit cette marque-là, et c'est son idée, à l'hôpital. Un fou, c'est pas un fou, c'est un homme, et il faut le considérer. Et le pire, dit-il, dans les traitements, c'est celui qui est à la fois schizophrène et tuberculeux. Il est à l'isolement, il le trouve attaché à un anneau, et qui est couché sur des bottes de paille. Alors que faire? Il obtient ce qu'il appelle la cinquième division. Un souvenir avec de l'armée, peut-être avec ce chiffre de cinquième. Eh bien, il voulait transformer tout l'hôpital, et les autres médecins se laissaient pas faire du tout. Alors il a dit, mais écoutez, je suis le médecin chef, donc ce que je ferai, c'est que je vais visiter tous les différents pavillons. C'était un hôpital pavillonnaire, se développant sur une immense surface. Il fallait avoir un deux roues ou un quatre roues pour se déplacer d'un pavillon à l'autre. Alors il dit, ben je viendrai faire une inspection tous les jours. Alors de peur d'être inspecté, ils ont accepté de faire une cinquième division, c'est-à-dire un pavillon différent des autres, où Frantz Fanon pourrait faire la psychiatrie qu'il voulait. Il reproche aussi à ses confrères de faire une psychiatrie qui est comptable. C'est l'addition de symptômes, et puis ensuite, quand on additionne les symptômes, on place les malades dans des cases. Et puis, on voit donc Frantz Fanon, qui est très très actif dans cet hôpital. Après la fin de 56, il y a un espoir. Il fait plus de doute que les socialistes qui sont au pouvoir, eh bien, vont-ils suivre le mouvement de libération. Et Mandouze intervient vainement auprès de Guy Mollet, Mandouze qui a été chahuté par les étudiants et qui a fait de la prison. Et en 1956, ça a été le tournant du drame algérien. C'est à ce moment-là que Fanon a noué d'étroites relations avec la Vie à la 4 et avec Sadek, qui était cette vilayakat, n'était pas encore durcie dans son ostracisme, parce qu'ensuite, entre les vilayas, ça n'a pas été commode. Et Manville faisait partie, son ami Marcel Manville, du collectif des avocats qui aidait, qui était pro-algérien. Et à ce moment-là, Fanon écrit fébrilement « Racisme et culture » au mois de juillet et d'août 1956, « Racisme et culture » qui sera publié pour l'Afrique. C'est aussi 1956, l'été du congrès de la Soumam, avec l'évasion, il y a aussi eu l'évasion de la Hongrie par les troupes soviétiques, c'est aussi l'année de Suez, il y a beaucoup d'événements. Et à la fin de l'année, le pouvoir découvre qu'il y a beaucoup de Français qui sont engagés avec les nationalistes et cela accentue la répression, que ce soit Lacoste, le gouverneur, et Massu, ils sont d'accord là-dessus. Et c'est à ce moment-là que Fanon écrit sa fameuse lettre de démission, et où il est déchu de sa nationalité française. L'hôpital de Blida est vu comme un nid de Felaga. Il est visé. Fanon démissionne, et donc avec Aban et Benkeda, ils doivent quitter l'Algérie. Avant de dire un mot de sa transition par Paris, et je pense que nous n'aurons pas le temps d'aborder le rôle de Fanon à Tunis, ce sera pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain, eh bien, un peu, Alex va nous mettre un peu de musique algérienne.
سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش شبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة والسلام عليكم مرحباب
سلام عليكم
سلام عليكم مرحباب
سلام عليكم
تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام
سلام عليكم الحباب سلام عليكم
livres et amis du 4 mai 2011 Portrait de Frantz Fanon par Alice Cherki. Je ne vous ai pas fait la lecture parce qu'elle ne se trouve pas dans ce livre, et puis j'ai oublié de prendre le document de la très belle lettre écrite par Frantz Fanon au gouverneur Lacoste pour lui dire qu'il était impossible d'exercer correctement le métier de psychiatre dans l'Algérie telle qu'elle était parce que l'occupation, la répression faisait de tels ravages chez les malades, aussi bien d'ailleurs parce qu'ils soignaient aussi des Français hein, qui avaient torturé que chez les Algériens, et qu'il était plus possible de continuer. Il faut ajouter ce que ne dit pas Alice Cherki, elle passe rapidement là-dessus en disant l'hôpital de Blida était considéré comme un nid de Felaga, que Frantz Fanon avait donc été contacté par le FLN qui avait appris que c'était un médecin pas comme les autres, un médecin qui avait des idées différentes sur la psychiatrie, un médecin qui ne voyait pas tellement ses pères, mais qui rencontrait ceux qui étaient infirmiers, ceux qui étaient salariés et les malades les plus modestes qu'il essayait de comprendre. Il a fait des innovations extraordinaires avec du mal. Au début, le pavillon des femmes a très bien répondu au fait qu'il organisait par exemple des fêtes et puis qui avait du succès. Il avait organisé une fête pour Noël, puis s'est aperçu après que Noël c'est quand même pas une fête pour les musulmans et qu'il fallait essayer autre chose et donc avec les hommes au bout d'un moment parce que tout n'était pas facile à mettre en place et puis il se heurtait aussi dans le personnel à des oppositions, eh bien il a réussi à faire un café mort. C'était donc retrouver les aspects de la vie quotidienne du pays. À l'intérieur de l'asile, il fallait ouvrir les murs de l'asile et c'est ce qu'il faisait. Il faut ajouter aussi que il avait des soirées qui étaient des soirées avec ses amis, ses internes, consacrées à des lectures. Il s'occupait, il suivait toutes les publications et il continuait aussi à lire des livres de sociologie, des livres de philosophie et il en discutait avec ses amis. Les internes disent aussi que tous les matins il faisait attention de faire disparaître les traces boueuses de gens qui étaient passés dans son cabinet et que le divan de la psychanalyse servait quelquefois à autre chose, à faire se reposer des combattants qui passaient par là. En effet, il avait réussi à obtenir encore une autre unité, une unité ouverte. C'était une unité qui était autrefois réservée à des malades de très très longue durée. Et là, il l'a fait ouvrir et il a donc accueilli des blessés ou des malades qui étaient des combattants. Et voilà donc pour parler de Fanon qui ne pouvait décemment plus tenir. Il a donc quitté l'Algérie, il est parti pour Tunis, mais après un passage en France et ses amis ensuite Kedda et puis Aban Ramdan l'ont rejoint en Tunisie. Voilà donc Fanon qui passe à Paris, hein, on n'en parle pas souvent, mais ça peut paraître comme un détail, mais j'ai trouvé que dans une biographie, après on a vu les grandes lignes et c'était bien ce qui était important, mais pourquoi pas prendre un peu le chemin des écoliers et voir comment il a transité par Paris. Il est reçu chez un monsieur M, AYME. Il l'avait rencontré au congrès des psychiatres francophones et ils ont le même point de vue sur la lutte depuis Sétif, depuis 45, que M. Donc il est recueilli chez lui, ayant le même point de vue sur la révolution algérienne. Et M est un lambertiste, un militant, et il lui fait lire les retranscriptions des 4 premiers congrès de l'International, et cela le passionne. Vous voyez que ce détour par Paris n'est pas sans intérêt. Et avec lui, Fanon apprend aussi à mieux connaître les différents mouvements dans la révolution algérienne. Il ne connaissait pas non plus la tendance MNA de Messali Hadj et puis les luttes entre le FLN et le MNA en France. Et c'est pas pour lui le fait qu'il va mettre en doute, hein, on va pas mettre en doute comme le fait Albert Mémy en 71, hein, il met en doute la justesse de son engagement en Algérie. On va pas aller se mêler de cette chose-là et là. Il y a une cohérence dans l'engagement de Frantz Fanon et la cohérence, elle est à chercher dans le goût de la liberté et dans son internationalisme. Et cette cohérence, le militant lambertiste M la voit bien. Ah, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, Fanon n'est plus rétribuer, et c'est Tosquelle de Saint-Alban qui règle la pension de sa fille. Et Fanon ne fréquente là, pendant son passage à Paris, ni la Nouvelle Gauche, ni le groupe Socialisme et Barbarie autour de Poulanzas. Il est déçu par le PC et il est déçu par l'attitude des travailleurs qui ne, comme on dit, faut pas désespérer Billancourt, et notamment, et elle le dit, les dockers marseillais qui ne se posent pas assez de questions en voyant tous les cercueils qui transitent par le port de Marseille. Il se crée aussi à ce moment-là un comité, c'est avec des cathos, qui s'appelle Résistance spirituelle, un titre qui a été repris par le journal des moyens chrétiens aujourd'hui, avec Henri Maroux. Mais pour ces gens-là, il s'agissait pas tant de prendre parti pour l'indépendance, mais de s'insurger contre la torture. Et puis, alors il y a eu à ce moment-là le scandale du prétendu suicide d'Ali Boumendjel, un avocat algérien torturé, et les autorités françaises, la police a prétendu qu'il s'était jeté par la fenêtre. Or, il y avait des marques de torture et des menottes au poing. Et c'est Raymond Aron, elle se plaît à le souligner, qui, dans son livre La tragédie algérienne, met nettement en avant son option, l'option pour l'indépendance. Eh ben oui, c'est Raymond Aron qui, en France, selon Pauline Cherki, a été le premier. Bon, il va y avoir les groupes d'extrême gauche qui faisaient, mais là, Raymond Aron, il connaissait pas. Et c'est alors qu'il rencontre de nouveau Janson, mais alors l'entrevue, ça se passe sur un aéroport, est un peu difficile parce qu'il conteste le réseau des porteurs de valises. Et il dit que ce réseau-là empêche la révolution algérienne d'avancer aussi rapidement qu'il le faudrait. Et pourtant, il faut bien le dire, c'est ce réseau qui l'a fait sortir de France. Voilà comment s'est passé ce transit à Paris, et nous allons laisser avec une petite conclusion Fanon à Tunis, et on le laisse au moment où il s'installe dans un contexte qui est un contexte de lutte de pouvoir à la tête du FLN. Il arrive à Tunis en mars-avril 57. Il est accueilli à la base. Qu'est-ce que c'est la base? C'est le siège du FLN qui est implanté à Tunis. Il retrouve Ben Kedda, Youssef et surtout Aban Ramdam. Aban Ramdam qui est celui qui avait rédigé la plateforme de la Soumam, qu'avait lu Franz Fanon, et sans connaître l'auteur, il avait été passionné, fortement intéressé par ce texte, et il y avait adhéré. Mais à ce moment-là, la position de Ramdam et de ses amis est affaiblie parce qu'il y a eu l'échec de la grève de janvier 57 et puis la perte de la bataille d'Alger. Donc les survivants du CCE, le comité central exécutif, avait déjà fortement mis en cause à Tunis, il était mis en cause par des fidèles de Ben Bella qui récusaient la plateforme de la Soumam. Et il y avait une contestation des colonels qui représentaient les vilayas, notamment Ben Tobal et Boussouf, les deux B comme les appelait Fanon. Et Aban, lui aussi, est mis en cause, et c'est quelqu'un qui, de plus, est comme Fanon, hein, il se ressemblait. Il est cassant, il est parfois blessant. Par exemple, on l'entend dire vous créez une puissance fondée sur l'armée. La politique en est une autre qui n'est conduite ni par des illettrés, ni par des ignares. Ils étaient contents, hein, les colonels, de s'entendre traiter comme ça. Ils disaient d'eux aussi, ce sont de futurs potentats orientaux. C'est ce que a confié Franz Fanon à Ferhat Abbas. Et de leur côté, il y a aussi la jalousie des Tunisiens qui sont jaloux de leur récente indépendance, et donc la situation est particulièrement tendue à Tunis. Je vais arrêter là, hein, sans parler de la terrible affaire des morts de Malouza, qui a fait un tournant dans la place de Fanon au sein du FLN. Puisque j'en ai parlé, il vaut mieux quand même que je dise quelque chose. Il y a eu des morts, et Fanon, dans une conférence de presse, avec à sa droite et à sa gauche des responsables du FLN, a clamé que c'était l'armée française qui avait fait le coup. Or, c'était Amir Rouche, chef militaire FLN de la Wilaya 3, qui l'avait fait. Et Fanon est excusable parce que le rapport avait été qu'il avait, sur lequel il s'était fondé, avait été falsifié par les auteurs mêmes du carnage. Et puis, ça a été après la mort de Aban Rabdam. Et à ce moment, Fanon aurait dit en privé, la révolution algérienne est foutue. Donc un tournant à ce moment-là, et ça va être le tournant africain. J'ajoute qu'il était à mi-temps dans l'hôpital de Tunis, un premier hôpital où ça n'avait pas très bien marché, et on lui en a ensuite confié un autre, le grand hôpital général de Tunis, alors que avant il était, j'ai oublié le nom, de le premier hôpital où il avait été nommé, et il est chargé de, comme je vous l'ai dit en début d'émission, de la rédaction de El Moudjahid. Alors, que dire après ce survol, hein, parce qu'on n'arrive pas à dire tout ce qu'il faudrait dire. Que dire de ce qui nous apparaît de ce portrait de Fanon? Je me souviens avoir interviewé René Frény, un auteur marseillais bien connu, et qui va participer d'ailleurs au concours des écritures des écoles. Il m'a dit, chez ceux qui me font des interviews, ceux qui sont profs de lettres, il y en a de deux sortes. Ceux qui s'intéressent à la littérature, au style, et puis il y en a qui s'intéressent à la personne. Vous êtes de ceux et celles qui s'intéressent à la personne. Et en effet, c'est la personne de Franz Fanon qui est intéressante. Et le film Franz Fanon, une vie, un combat, une vie, une œuvre, montre bien qu'il reste mystérieux. Beaucoup disent c'était un garçon heureux et il est devenu un héros. Hein, personne ne pensait à des choses aussi grandioses de sa part, et puis quelqu'un aussi de difficile, de tourmenté, avec une susceptibilité à vif. Hein. Il y en avait ses ennemis. Ablida disait, qu'est-ce que c'est que cet Antillais complexé. Il le traitait d'Antillais complexé. Donc quelqu'un qui reste mystérieux et qui, il faut le dire, ne parlait jamais de lui, ni donc de sa fille Mireille, ni de sa vie privée. Il était un brillant causeur, il aimait aussi les danses, il aimait faire écouter des béguines, il aimait faire des plats africains, des plats antillais pour ses amis, mais il n'aimait pas parler de lui. Et on a posé la question, pourquoi n'est-il pas resté aux Antilles, puisqu'il y avait revendication de l'indépendance des Antilles, revendication qui a d'ailleurs été rappelée au moment des obsèques de Aimé Césaire. On peut trouver un début de réponse dans la lettre qu'il a écrite au docteur Despinois, qui était psychiatre à Fort-de-France, et qui lui avait dit, vous savez, il y a une place libre, vous pouvez revenir chez vous et faire de la psychiatrie avec moi. Et il lui a répondu, oh, je suis en Algérie Et d'après ce que je vois, il y a vraiment beaucoup à faire là-bas. Et je vous remercie de votre proposition, mais je vous dis non. Et en effet, l'urgence de la lutte, l'urgence de la résistance l'avait pris. Et c'était quelqu'un, certainement, qui aimait lutter, qui aimait résister. La politique politicienne, le pouvoir, ça l'intéressait pas. Il était pas commode avec des gens de pouvoir, mais c'est pas parce que il revendiquait le pouvoir, c'est parce que il voulait aller le plus vite possible vers l'indépendance de l'Algérie et vers une indépendance qui n'était pas le fait de l'Algérie toute seule, mais qui était le prélude à l'indépendance de tous les États africains. Voilà donc quelques réponses, et puis j'insisterai davantage la prochaine fois sur ces divergences avec Aimé Césaire, qu'il apprécie et qu'il imite, on le voit dans Peau noire et masque blanc, mais dont il s'est éloigné pour des raisons politiques. Galère. Merci à Alex, et place à Yves Réel, nouvelle chanson des Andes.
Here's a song that comes from Tanzania.